Non, mais je. Alors attends, j'ai quoi? Vidéo.
Moi non plus, je me souviens plus.
Non, mais sinon, je peux couper tous vos micros, hein, ça, si ça vous va.
Oui, parce que si on
Vois
peut de
des
toute façon
oui
toujours
sur
communiquer.
l'écran. Bon, bah, je coupe les micros. Et puis, si vous avez quelque chose à me dire, bah, vous pouvez me l'écrire
Organe,
en chat, oui.
réfugié. Nous, on
Enregistré,
fait
là.
en grand écran. En fait, en haut à droite, il y a affichage
Intervenant.
intervenant. Il faut cliquer dessus et
C'est
on.
à chacun des gens de cliquer dessus.
D'accord.
Voilà.
Et je vois, c'est enregistré la vidéo.
Oui.
On m'entend pas? Oui? Tu m'entends, Organ?
Oui, je t'entends, oui.
Oui, mais je vois moi en haut à droite, il y a marqué en rouge Record, REC. Est-ce que c'est ça veut dire que c'est enregistré ou pas?
Oui, c'est enregistré, oui.
D'accord. OK.
Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez me le dire, hein.
Moi, ça me pose pas de problème.
Alors, ce que je vais faire, c'est que
Je coupe le son.
je vais couper les micros. Et puis, si vous avez quelque chose à me dire, s'il y a un problème, vous pouvez m'écrire sur le chat.
Voilà.
Alors, bon, on a mis un petit peu de temps à se mettre en place. Donc, on va parler de la paramita de la patience. Et je vais vous lire la première stance de la marche vers l'éveil quand il parle du chapitre de la patience. Je me suis pas seulement à, je vais pas faire un commentaire de la marche vers l'éveil, c'est juste un support parce que il y a un chapitre donc qui traite de la patience et qui est extrêmement complet dans la marche vers l'éveil. Et ça commence en disant la générosité, la vénération pour les Bouddhas, le bien qu'on a fait pendant des milliers d'ères, tout cela est détruit par un instant de haine. Il n'y a pas de vice égal à la haine, ni d'ascèse égale à la patience. Il faut donc, par des moyens variés, cultiver activement la patience. Donc, la patience est décrite comme l'exact opposé de la colère et de la haine. La colère et la haine, en fait, sont l'opposé de la bodhicitta, l'opposé de la compassion pour les êtres. Et il est dit que même si on a pu accumuler beaucoup de choses positives dans cette vie, dans les vies passées, en pratiquant la générosité, en pratiquant les vertus, en pratiquant la conduite éthique, on dit que tout ce qu'on a pu accomplir de positif peut être détruit par un instant de haine, c'est-à-dire sous l'emprise de la colère, sous l'emprise de la haine, on peut être amené à perdre totalement le contrôle de nous-mêmes et puis faire quelque chose de très destructeur, à la fois pour nous et à la fois pour les autres. Et c'est pourquoi on dit que cette émotion qui est très puissante, on doit trouver un moyen d'y mettre un terme, de réagir très vite lorsqu'elle se manifeste dans l'esprit. Autant. Donc, quand on parle des poisons de l'esprit, on va parler des trois poisons, on parle en général de trois poisons principaux. Le premier étant l'ignorance. L'ignorance, c'est la racine de tous les poisons. Mais le problème de l'ignorance, c'est qu'on n'en a pas. C'est difficile de travailler dessus parce que précisément, l'ignorance, on n'en a pas conscience. Et donc, c'est délicat de travailler dessus. Ensuite, il va y avoir le désir-attachement. Mais le désir-attachement, il est peut-être moins destructeur, mais il est plus sournois. C'est-à-dire, dans le désir, on va voir qu'il y a des choses qui sont positives et puis des choses qui le sont moins. Et en plus, voilà, on a plus de mal à travailler sur le désir parce que précisément, on ne voit pas forcément le caractère négatif de ça. Mais le plus destructeur des poisons, c'est la colère. Alors, à la fois, c'est le plus destructeur, c'est-à-dire celui qui peut engendrer le plus de dégâts, Mais en même temps, on pourrait dire le point positif, c'est que c'est le plus facile à désamorcer, le plus rapide à désamorcer. Et donc, on nous dit, pour quand on voit la colère et la haine se manifester dans l'esprit, il faut réagir très vite. On compare la colère à un feu de forêt, voilà l'image traditionnelle qu'on utilise dans le dharma, c'est de comparer la colère à un feu de forêt. Une forêt, ça peut mettre des années à croître, des années à se développer, et il va suffire d'une étincelle, d'une petite flamme, pour qu'en quelques heures, il ne reste plus rien. Et donc, on nous dit de réagir très très vite lorsque on voit ce poison dans l'esprit, pour éviter des gros dégâts. Et c'est pour ça que je vous ai mis en partage. En fait, on voit l'image. On dit pour ce, quand on sent la colère qui naît dans l'esprit, il faut se réagir aussi vite que si on avait un serpent qui nous tombait sur les genoux, ou si nos cheveux prenaient feu. Et bien sûr, si nos cheveux prennent feu, ben on ne va pas se mettre à appeler les pompiers et dire « Attention, s'il vous plaît, vous ne pourriez pas venir parce qu'il y a mes cheveux qui prennent feu là et donc il faudrait peut-être réagir. » Non, non, on va tout de suite réagir très très vite pour ne pas risquer que cette colère embrasse tout. Et donc, pour travailler sur la colère, pour empêcher cette colère d'arriver, en fait, dans le bouddhisme, on est assez clair, les maîtres sont assez clairs, c'est-à-dire on ne trouve absolument rien de positif à la colère et à la haine. Et pour qu'on puisse travailler sur la colère, pour qu'on puisse transformer cette émotion, travailler avec cette émotion, il faut qu'on ait la conviction absolue qu'à aucun moment, la colère et la haine n'ont d'aspect positif. Il faut vraiment le comprendre, ne serait-ce qu'intellectuellement. Donc, on a beaucoup de textes qui vont passer en revue les méfaits de la colère. Le premier, alors, un des méfaits de la colère, un des inconvénients de la colère, c'est de constater que tout simplement, quand on est sous l'emprise de cette émotion, notre esprit ne se sent pas en paix. L'émotion en elle-même n'est pas confortable. Elle est désagréable. Personne ne peut dire, ben voilà, je me suis énervé toute la matinée, j'ai passé un excellent moment. Personne ne peut dire ça. On sait que, ben voilà, quand on est sous l'emprise de la colère, c'est pas confortable. On peut même en perdre l'appétit. On peut même en perdre le sommeil quand on est voilà en train de ruminer, en train d'entretenir des pensées de colère. De voir que ça nous préoccupe tout le temps. Il n'y a plus de place pour autre chose. On est sous l'emprise de la colère, on est privé de bonheur. Même si il y a des choses positives qui nous arrivent, de voir que tout devient fade, même les choses qui d'habitude nous réjouissent. Quand on est sous l'emprise de la colère, on n'a plus goût à rien. On n'a plus goût à rien, c'est comme si on était coupé du bonheur, c'est comme si on était coupé de la joie, privé de bonheur, on ne peut plus rire avec les gens, on ne peut plus se réjouir avec les gens, on ne peut plus profiter de moments agréables. Ça, c'est un point qui est important d'observer chez soi. On dit aussi que si l'esprit reste sous l'emprise de la colère. Ça peut être source de maladie. On dit que, d'une manière générale, dans toutes les émotions, si on reste, si on maintient une émotion très forte dans l'esprit, au bout d'un moment, ça provoque un déséquilibre dans les quatre éléments. Dans le système médical tibétain, on parle de quatre éléments. Et tant qu'il y a un équilibre entre ces quatre éléments, on est en bonne santé. Quand il y a un déséquilibre, on finit par tomber malade. Alors, les quatre éléments, c'est sans rentrer dans les détails, parce qu'en fait, j'y connais pas grand-chose, mais c'est juste pour expliquer que dans le corps est composé de quatre éléments. on va parler de l'élément feu, c'est-à-dire la chaleur, l'élément solide, tout ce qui compose les os, les muscles, l'élément liquide, l'élément eau, donc tout ce qui est les fluides du corps, le sang, et l'élément air, le souffle. Et on dit quand on est sous l'emprise, on est trop longtemps sous l'emprise de la colère, sous l'emprise de l'aversion, de la peur, de la haine, ce qui se passe, c'est que ça provoque un déséquilibre dans ces quatre éléments et on finit par tomber malade. On finit par développer des ulcères, des cancers, des choses comme ça. Ensuite, dans les méfaits de la colère, il y a le fait que on finit par se brouiller avec tout le monde. Quelqu'un qui se met facilement en colère, eh ben, on finit par le fuir. Le colérique, même ses amis, finissent par prendre de la distance avec lui. Dans le texte de Shantideva, il dit « Cadeau, égard, protection, n'empêche pas ceux qui en profitent de souhaiter la perte du chef que sa dureté rend odieux. » On voit ça aussi dans l'histoire dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, même les grands seigneurs qui pouvaient offrir des privilèges à leurs sujets, de la protection, de la sécurité, de la nourriture, une position sociale, on voit qu'il y a beaucoup de rois, de monarques qui ont été assassinés par leurs proches parce que justement, ils exerçaient sur eux une emprise de la colère, du manque de respect, du manque de considération, etc. Et on peut voir que bah, chez les colériques, c'est ça qu'on voit, c'est que même si... même quelqu'un qui s'efforce de nous offrir voilà, tout ce qui est du confort, de la sécurité, des cadeaux, etc., finalement, on n'arrivera pas à l'apprécier du fait qu'il se met systématiquement en colère, du fait qu'il s'emporte, qu'il ait des paroles dures, des paroles blessantes, des propos désagréables. Et ensuite, donc, Shantideva dit « Ses amis même se dégoûtent de lui. Il donne, mais n'est point servi. Bref, il n'est rien par quoi l'homme irascible puisse être heureux. » On finit par être tout seul. On finit par faire le vide autour de nous et du coup, on n'est pas heureux. Ça fait partie des inconvénients de la colère qu'on peut voir chez nous, qu'on peut voir chez les autres, de voir que avec la colère, on peut faire de petits problèmes des gros problèmes. Ça aussi, c'est un des aspects qu'il faut observer, c'est que dans la colère, on finit par s'emporter. Et donc, même par rapport à de petites choses, eh bien, comme on n'a plus le contrôle sur nous-mêmes, eh bien, on franchit certaines limites et puis, bah, du coup, ça peut se terminer derrière les tribunaux. Une petite brouille avec les voisins, ça peut dégénérer et finir par devenir de très gros problèmes. Voilà, c'est ça qui est dit, c'est que de petits problèmes, ça peut se transformer en de très gros problèmes. Voilà, c'est des grilles de lecture, tout ça. Je vais continuer pour énumérer, pour qu'on comprenne bien, à un moment qu'on arrive à voir, mais en quoi la colère peut m'être utile. En plus, dans le Dharma, on va aussi dire que le fait de se mettre en colère, le fait de réagir sous l'emprise de la colère, l'irritabilité, ça peut poser des problèmes à très long terme. On dit même dans le Dharma que ça ne va pas seulement poser des problèmes pour cette vie, on va parler des vies futures. Ça va poser des problèmes qui vont nous accompagner dans nos vies futures. Ça va prêter à conséquence. La question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que la colère, ça peut nous aider? Parce que souvent, le problème avec la colère, c'est que ça se présente comme un ami. On dit, on dit oui, ok, la colère c'est négatif, mais parfois est-ce que c'est pas nécessaire? Parfois, quand quelqu'un nous fait du tort, la patience consisterait à ne pas répondre par le tort, à ne pas répondre au mal par le mal. Ça, c'est une des formes de la patience, ne pas répondre au mal par le mal. Et parfois, on pourrait se dire, bah oui, mais bon, il m'a fait du tort, donc est-ce que ça ne serait pas mieux de lui causer du tort en retour pour lui faire comprendre, ou par vengeance, ou par ressentiment. Et ça, on nous demande d'observer que si on répond au mal par le mal, la personne en face, le risque, c'est qu'elle se sente blessée à son tour, et que donc, du coup, elle cherche à se venger, ou elle cherche à répondre par le mal. Et du coup, on n'en finit pas. C'est une partie de... C'est une spirale de violence et c'est une sorte de partie de ping-pong dans lequel il n'y aura aucun gagnant dans l'histoire. Et à ce propos, je voulais vous raconter une petite histoire donc, qui est tirée des Jatakas. Avant, je vais vous parler d'une petite histoire. Qui parle du roi Ashoka. Donc le roi Ashoka, en fait, c'était un roi qui a vécu en Inde. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc c'est en anglais, je vais essayer de traduire mot à mot. Enfin, je vais me débrouiller, quoi. Donc, il était une fois un roi. Donc, il était une fois, le roi Ashoka a réellement existé. Hein. Donc, le roi Ashoka, d'abord, c'était un roi qui était très violent. C'est un roi qui a tué son frère pour pouvoir prendre la place du roi. Et qui a été un grand conquérant de l'Inde. Et donc, à une période, quand il était dans le sud de l'Inde et qu'il menait une bataille dans le sud de l'Inde, il constate qu'il y a tellement de morts, tellement de souffrances des deux côtés, qu'il en est très affecté. Et puis, un jour, son campement est en train de s'établir près d'une rivière, et là il voit quelqu'un qui se met à chanter, à danser de l'autre côté de la rivière. Et cet homme dit « j'ai gagné, j'ai vaincu ». Et il le voit jeter son épée dans l'eau. Vous voyez sur l'écran partagé les petits dessins que je mets ? Non.
Non.
Peu importe.
Non, on ne voit pas.
C'est pas grave. Et donc...
Maintenant, on les voit.
Ok, super. Et donc... Donc, il le voit donc jeter son sabre dans la rivière et puis il lui dit « Mais quelle est la signification de ça ? Tu balances ton sabre dans la rivière et tu déclares que tu es le vainqueur, que tu as gagné. De quelle victoire veux-tu parler ? C'est quoi le sens de tout ça ?» Et l'homme répond « depuis des générations, je suis en guerre avec mes voisins. Et depuis très longtemps, il y a eu beaucoup de morts des deux côtés. Et ça fait un petit moment que je me pose la question de tout ça, de comment ça peut s'arrêter tout ça. Parce que ils m'ont causé du tort, et puis je me suis vengé, et puis ils se sont vengés à nouveau, et puis je me suis vengé à nouveau. Et du coup, il y a eu beaucoup de souffrances liées à ça, et je ne voyais pas comment stopper tout ça. Et aujourd'hui, c'est mon tour de me venger. Et j'ai voulu mettre un terme à ça. Et c'est très, très difficile à cause de toute cette souffrance, à cause de tous ces troubles. Mais je pense que c'est ça le meilleur moyen, c'est que de mon côté, j'arrête. De mon côté, je stoppe. Et c'est pour ça que j'ai jeté mon sabre dans la rivière. Et maintenant, je me sens léger. Je me sens, finalement, j'ai l'impression que c'est moi le vainqueur, parce qu'aujourd'hui, je peux pardonner, et je n'ai pas à continuer tout ça. Et on dit que le roi Ashoka, en voyant ça, était profondément transformé, profondément troublé, et que depuis ce jour-là, il a totalement changé, et il a déclaré la paix dans tout le pays. Il est devenu quelqu'un, un roi parmi les plus paisibles, parmi les plus tolérants, et il a fait énormément pour la diffusion du dharma, notamment la diffusion du bouddhisme au Sri Lanka et puis dans d'autres contrées en Asie. Voilà, l'idée en fait de ça, c'est de comprendre que finalement, le fait de répondre par la haine ne solutionne pas le problème, parce que ça finit en escalade de violence, ça ne s'arrête jamais. Jusqu'au jour où il y en a un des deux parties qui décide d'arrêter. C'est le seul moyen de mettre un terme à ça. Ensuite, on pourrait se dire, est-ce que c'est une aide à ce moment-là de contenir la colère ? Est-ce que c'est une aide de réprimer l'émotion ? Mais là encore, dans le fait de réprimer l'émotion, dans le fait de refouler l'émotion, bah quelque part, on va voir que ce n'est pas, c'est pas non plus une solution, parce que l'émotion est toujours là. On ne l'exprime pas, mais elle est toujours à l'intérieur de nous. Et donc, du coup, elle va finir. C'est sûr qu'on ne va pas la manifester à l'extérieur dans un premier temps, elle ne va pas exploser, mais ça va finir par nous ronger de l'intérieur. On va finir par imploser, on va en faire des boutons, on va en faire des ulcères, mais finalement, on n'a pas réussi à rentrer en contact avec cette émotion, on n'a pas réussi à communiquer avec cette émotion-là, et donc du coup, elle est là dans un recoin, et puis elle nous ronge de l'intérieur, et au bout d'un moment, ça va finir par exploser. Et je vais vous lire un passage de Shogyam Trungpa qui parle de ça, parce que souvent quand on parle de patience, les gens ont tendance à comprendre que la patience, ça consisterait à se montrer patient. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de transformer l'émotion, il s'agit de ne pas montrer l'émotion, de masquer l'émotion, de montrer un visage lisse. Et là, on comprend, c'est comme une sorte de patience aveugle. C'est-à-dire, on n'est pas prêt à voir les choses telles qu'elles sont. Donc, on garde la colère, mais on se montre patient. On ne montre pas l'émotion parce que ça serait, je ne sais pas, ça pourrait être revenir à perdre la face, ou ça ne se fait pas, ou... on se montre patient parce qu'il faut être patient, parce qu'on nous a dit qu'il faut se mettre en colère. Et à ce moment-là, c'est une patience aveugle. Ce n'est pas une patience intelligente. Ce n'est pas une patience qui va se baser sur une réelle compréhension de la situation. On se montre patient parce qu'il faut être patient. On supporte parce qu'il faut supporter. Et donc, du coup, il n'y a aucune intelligence derrière. On supporte pour supporter. Alors que dans l'idée de la patience, c'est au contraire l'idée de ne pas se laisser emporter par la colère pour être à même d'avoir peut-être de se laisser du temps, de comprendre mieux la situation, de comprendre mieux le problème, d'avoir plus de cartes en main. Parfois, la patience, ça peut être de ne pas se laisser aller à être emporté par la colère, parce qu'on cherche à en savoir plus, on cherche à avoir un regard plus lucide, plus lucide sur les choses et on cherche à régler le problème en profondeur. Il y a, ça peut nous arriver parfois de voir que on pourrait dire à l'autre ces quatre vérités. On pourrait même penser que ça pourrait lui faire du bien, mais de constater que l'autre il n'est pas prêt à l'entendre à ce moment-là. Ben, la patience, ça pourrait être, c'est être capable justement d'attendre un peu, d'attendre d'avoir la bonne situation, la bonne occasion, le bon moment, d'être lucide par rapport au fait que si on balance notre vérité à la tronche de celui qu'on a en face de lui, ça ne va pas passer. Il va le prendre comme une agression parce qu'il n'y a pas les bonnes conditions, il n'y a pas le bon contexte, il n'y a pas la bonne atmosphère. Et c'est ça, la patience. La patience, ce n'est pas, c'est pas nier le fait qu'il y a un problème. On est tout à fait, on peut très bien être conscient qu'il y a quelque chose qui est problématique et qui doit être traité et qu'on peut améliorer les choses et qu'on peut faire quelque chose à ce moment-là. Mais on décide d'être totalement libre de comment on va dire les choses, comment on va faire les choses de façon à réellement traiter le problème en profondeur. S'il y a une vérité à faire passer à quelqu'un, bah, l'objectif, c'est que la vérité elle passe. Ce n'est pas le fait de se défouler sur la personne en se disant il y a un proverbe comme ça qui est un proverbe arabe que j'ai lu sur une citation du genre calendrier et je la trouvais pas mal pour illustrer ça. Je crois que je l'ai noté quelque part. C'est voilà, la citation c'est: à l'heure de lancer la flèche de la vérité, enduit la pointe de miel. J'aime bien celle-là parce que là, du coup, on parle de compassion. Dans la patience, il y a cette dimension de compassion. Si on veut dire la vérité à quelqu'un, si on veut dire ces quatre vérités à quelqu'un, ce n'est pas pour lui fermer le clapet, ce n'est pas par colère, ce n'est pas pour, par vengeance ou par voilà, on règle des comptes. Dans la patience, il y a l'idée de si je dois dire sa vérité à quelqu'un, c'est motivé par quoi ? C'est motivé par le fait de vouloir améliorer la situation, qu'il y ait moins de souffrance de tous les côtés, que ce soit de mon côté, que ce soit du côté de l'autre. C'est vraiment ça qui doit motiver, c'est ça l'intention qui sous-tend la patience. C'est la compassion pour l'autre. Et donc du coup, même quand on sent que c'est le bon moment pour dire les choses, pour faire passer quelque chose, il faut avoir tout le tact et l'intelligence de trouver les mots pour que la personne, finalement, ça lui fasse du bien. Même si c'est des vérités pas faciles à dire. Alors, j'ai un commentaire. Ce sont des notes qui ont été prises pendant un enseignement de Ringo Rinpoche, justement sur cet enseignement de Shantideva, la marche vers l'éveil, et qui dit: est-ce une aide de contenir sa colère? Contenir sa colère est douloureux et source de souffrance pour nous-mêmes. De plus, ça ne produit rien pour apaiser le conflit. Au contraire, ça ne fait souvent que l'accroître. Pour autant, même si cela est inutile, la colère est bien présente en nous et il nous est difficile de nous en défaire. Bien que les émotions comme la colère et la haine soient très puissantes, elles ne sont pas si stables et pas si durables que ça. Parfois, il nous suffit juste d'arrêter d'alimenter notre colère, d'arrêter de la renforcer pour lui permettre de disparaître. La colère est impermanente. En Occident, il est courant de réprimer ses émotions. En agissant ainsi, nous ne travaillons pas pour autant directement sur les émotions. Nous ne faisons que les contenir. Concernant la colère, il ne s'agit donc pas de la garder en nous, mais plutôt de ne pas agir à partir de la colère. Il convient de lâcher prise. Certaines personnes pensent que la colère peut être une base qui les aide à agir, comme par exemple un carburant qui nous aiderait à lutter contre l'injustice. C'est incorrect, car la colère est une émotion temporaire qui plus est, elle nous fait perdre notre pouvoir de raisonnement et nous pousse à en faire trop. Le bouddhisme énonce que la colère et la compassion s'élèvent de la même situation. Colère ou compassion dépendent donc de ce sur quoi nous nous concentrons. Alors ça, c'est Ringo Rinpoche propose cet exercice. Si nous nous focalisons sur la personne, La colère se transforme rapidement en haine de l'autre. Si nous nous focalisons sur la situation, nous sommes davantage enclins à changer la situation elle-même. Dès lors, la colère est inutile puisque notre souhait est juste que l'injustice ressentie ne se produise pas. Nous mettons alors tout en œuvre pour cela, en incluant dans notre démarche celui qui est à l'origine de l'injustice, qui en agissant ainsi, a créé des actes négatifs pour lui-même. La compassion a autant de force que la colère, mais il s'agit d'une motivation claire, positive et durable. Donc, on va souvent parler de ça dans les enseignements, du fait que répondre à cette idée qu'on peut avoir que parfois la colère est nécessaire pour faire face à l'injustice, pour répondre à l'injustice, de comprendre que d'abord la colère en tant que moteur, oui bien sûr c'est un moteur pour agir, mais c'est un moteur sur lequel on ne peut pas se fier parce que la colère c'est pas permanent. C'est une émotion et puis parfois en fait c'est très fugace. La colère est impermanente. Tandis que on va mettre en comparaison le fait de motiver notre action par l'amour et la compassion. L'amour et la compassion, c'est beaucoup plus durable. Et puis, en plus, l'amour et la compassion se basent sur un résultat à long terme. On essaye de voir, quand on parle de compassion, c'est le fait de trouver une solution à long terme pour à la fois soulager la souffrance, à la fois du côté de la victime et à la fois du côté du persécuteur, on pourrait dire. De comprendre que pour déraciner la racine de la souffrance, il faut avoir une vision plus globale, un projet, voir les choses de manière plus profonde, pas seulement en apparence, pas seulement se focaliser sur la personne qui a accompli un acte répréhensible et de comprendre que même si on lui impose un châtiment, même si on la punit, ce qui peut être une réponse, est-ce que elle, ça va résoudre sa souffrance à elle, c'est-à-dire la racine, la véritable racine de sa colère, de sa haine, de ses actes, qui est la souffrance. Donc la compassion nous propose toujours une vision plus vaste, plus profonde. Et la compassion ne veut pas se contenter de résoudre les problèmes en surface, de résoudre les problèmes temporairement. Comme le projet est ambitieux, comme le projet est plus vaste, c'est-à-dire déraciner la racine de la souffrance pour moi et pour les autres, on va essayer de résoudre le problème en profondeur. Ça va jusque-là?
C'est bon pour nous.
Super. Alors, il y a une différence entre refouler et lâcher prise. Parce qu'on nous dit à la fois, il ne faut pas céder à la colère et à la fois, il ne faut pas la contenir. Mais alors, comment, voilà, c'est quoi la différence entre supprimer la colère et lâcher prise ? Quand on parle de lâcher prise, il s'agit de ne pas entretenir ce qui nourrit la colère. Pour que la colère demeure dans l'esprit, la colère ne peut pas demeurer dans l'esprit, c'est juste une émotion temporaire. Donc ce qui entretient la colère, c'est le fait d'être nourri. On nourrit le ressentiment, on nourrit le mécontentement. Dans lâcher prise, l'idée c'est justement de lâcher tout ce qui le combustible, tout ce qui nourrit, entretient la colère. Par exemple, parfois, il n'y a pas grand-chose à faire. Parfois, il suffit juste de regarder la situation avec plus de hauteur, avec plus de recul. Et il y avait un étudiant de Rinpoche Rinpoché un jour pendant un enseignement qui avait partagé son expérience et qui est très intéressante. Il disait, ben voilà, un jour, j'étais dans le train et puis j'avais eu une journée vraiment pénible. Et donc, du coup, déjà, j'étais pas bien, j'étais irrité et tout ça. Et puis, je m'assois dans le train et puis juste à ce moment-là, il y a un père de famille qui arrive avec ses deux enfants, qui braille dans tous les sens, qui gesticule, qui s'assoit juste à côté de lui. Et en plus, il voit que non seulement les enfants font n'importe quoi, ils braillent, ils s'agitent. Et puis le père, il a l'air complètement à l'ouest, il laisse faire. Il paraît complètement absent. Et donc, la personne, elle essaye de se rappeler les enseignements sur la patience, etc. Mais bon, ça monte dans les tours. Et puis, au bout d'un moment, elle commence à se dire, bon, il va quand même falloir que je lui dise quelque chose, que je vais dire deux mots à ce monsieur. Et au moment où ça allait partir, la personne se tourne vers lui et le père de famille se tourne vers lui et lui dit, je m'excuse, je suis désolé, en fait, on sort de l'hôpital. Ma femme, donc la mère de mes enfants, vient de partir et donc du coup je suis complètement perdu et mes enfants sont très perturbés par rapport à ça, donc je m'excuse pour tout ça. Et donc la personne nous raconte que à ce moment-là, à l'instant même où la personne lui dit ça, de l'aversion, ça fait place à la sympathie. C'est-à-dire tout de suite elle a la colère a disparu instantanément dans son esprit. Il n'y a pas eu à faire quelque chose, il n'y a pas eu à réprimer la colère. C'est juste qu'il lui manquait cette carte. Au moment où elle a eu cette information, la colère a disparu instantanément de son esprit et à la place, elle s'est mise à ressentir de l'empathie pour cette personne-là. De voir que quand on parle de lâcher prise, c'est on laisse partir la colère. Il n'y a pas forcément quelque chose de nous-mêmes qui fait quelque chose. L'idée de la patience, c'est d'apprendre à ne pas réagir à cette émotion de façon à garder un esprit lucide, un esprit clair sur la situation. Et parfois, très souvent, il manque une carte. On n'a pas toutes les cartes en main. Et il suffit d'avoir une carte en plus pour voir que il n'y a pas de raison de se mettre en colère, ça ne serait pas pertinent. La personne nous a dit qu'elle s'était vraiment félicitée à ce moment-là de ne pas s'être emportée parce que ça aurait été très embarrassant du coup. Ça aurait été très gênant pour elle. Voilà, et donc ça n'a rien à voir avec le fait de lisser. Quand on parle de lâcher prise, ça n'a rien à voir avec le fait de trop lisser les émotions. L'idée, c'est de rentrer en contact avec l'émotion, de comprendre mieux la situation. Il ne s'agit pas de supporter pour supporter. Il ne s'agit pas de ne pas se mettre en colère parce qu'il ne faut pas se mettre en colère, parce qu'il ne faut pas montrer l'émotion, parce qu'il ne faut pas, parce que finalement, en fait, l'émotion, elle est toujours là. Et puis, si on fait ça, au bout d'un moment, on n'est pas très clair avec ce qu'on veut communiquer. Il y avait un petit exemple qui me vient. Qui m'a fait rire, que j'avais vu sur les réseaux sociaux. C'était une sorte de cartoon que j'avais vu sur Facebook où on voyait une femme qui écrivait un texto à son mari et puis qui lui disait « T'es en retard !» Point d'exclamation. Et puis avant de l'envoyer, elle le relit, on voit qu'elle hésite et puis elle l'efface. Et puis elle réécrit « Est-ce que je t'attends pour dîner ?» Point d'interrogation. Et puis ensuite, pareil, elle hésite et puis elle rajoute avec un petit smiley. Il y a un petit smiley qui sourit, quoi. Et ça m'a fait sourire. Je ne sais pas si c'est le propos de cette BD, quoi. Mais moi, à ce moment-là, quand j'avais lu ça, ça m'avait fait penser au fait qu'à force de trop, comment dire, ne pas montrer, bah, quelque part, on finit par ce qu'on communique à l'autre, c'est l'inverse de ce qu'on voudrait lui dire. C'est-à-dire, ce que le mari reçoit, ce n'est pas le mécontentement de sa femme parce qu'il est en retard. Il reçoit un message tout autre. Et si on pousse le bouchon, bah, ça peut arriver, ça peut, on pourrait imaginer que cette femme, je ne sais pas, peut-être à force d'avoir affaire à cette situation, un jour, elle n'en peut plus. Et puis, elle dit à son mari, à chaque fois, tu arrives en retard. T'arrives en retard le soir, quoi, alors que j'ai préparé à manger. Et puis le mari pourrait lui répondre, bah oui, mais je savais pas que ça posait problème. Vous voyez, parfois, ce qu'on veut communiquer et ce qu'on communique est très différent de ce que on communique réellement. Bon, je sais pas si je me fais comprendre là. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'était le sens de cette BD, mais ça m'avait fait penser à ça. En tout cas, ce qui est dit, ce qui est dans les textes, c'est que la racine de la haine et de la colère, c'est le... la racine de la colère et de la haine, c'est le mécontentement. C'est le fait d'entretenir le mécontentement. Shantideva dit celui qui, reconnaissant dans la colère l'ennemi, auteur de tous ses maux, l'attaque avec énergie, celui-là est heureux dans cette vie et les vies futures. Né de la crainte réalisée ou du désir insatisfait, le mécontentement est l'aliment de la haine, qui fortifié par lui me perdra. Donc je détruirai l'aliment de cet ennemi qui n'a d'autre rôle que de m'assassiner. On parle beaucoup de contentement dans le dharma, donc c'est-à-dire l'antidote au mécontentement. Le mécontentement, en fait, ne vient pas forcément de ce qui arrive ou de ce qui n'arrive pas. Ce qu'on essaye de nous faire voir dans le dharma, c'est que le mécontentement, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit qui est habitué à se porter sur ce qui ne va pas, sur ce qui est négatif. Ce qui fait que quand on est dans cet état d'esprit-là, même si on bénéficie d'un cadre privilégié, même s'il nous arrive de très belles choses, même si on a tout pour être heureux, eh ben, on va focaliser sur tout ce qui ne va pas. Et donc, du coup, on ne va pas être heureux. On ne va pas pouvoir jouir de ce bonheur-là. C'est une histoire de focus. Dans le mécontentement, il peut y avoir 100 trucs qui vont bien. Il va suffire d'un truc qui ne va pas bien pour que on focalise dessus et donc du coup on soit dans un état d'esprit négatif, insatisfait. Et c'est pour ça qu'on nous dit de cultiver le contentement. Le contentement, c'est d'apprendre à être heureux. Souvent j'utilise cette expression-là, que le bouddhisme ne nous enseigne pas à trouver le bonheur, il nous apprend à être heureux. On n'apprend pas à chercher le bonheur quelque part. On apprend à être heureux, c'est-à-dire ne pas attendre que telle ou telle chose arrive ou qu'on soit débarrassé de telle ou telle chose pour être heureux, parce que si on regarde les choses de manière plus profonde, on voit que on peut toujours attendre. Si on attend que les choses se conforment à nos attentes ou que telle ou telle chose n'arrive pas, on peut toujours attendre pour être heureux. Et la pratique bouddhiste consiste essentiellement à apprendre à être heureux. Être heureux que les choses aillent bien, ou être heureux quand les choses vont de travers. Apprendre à ne plus dépendre des circonstances, du va-et-vient, des situations, pour être heureux. Et donc, ce dont on nous parle là, c'est d'un choix. Un choix de délibérer d'être heureux, c'est-à-dire de focaliser, de porter notre attention plutôt sur ce qui va plutôt que ce qui ne va pas. Parce que bien sûr, il y a toujours des choses qui ne vont pas, et puis même quand ça va bien, ça ne dure pas. Tout est impermanent, tout change tout le temps. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on constate ça, finalement, de cultiver un état d'esprit, de choisir, de faire le choix, de s'autoriser à être bien, de s'autoriser à se sentir bien. Et c'est pour ça qu'il y a cette phrase très célèbre qui suit. Que la pire calamité m'atteigne, ma joie n'en doit pas être troublée, car le mécontentement ne me profite en rien, et de plus, il dissipe le mérite acquis. S'il y a un remède, à quoi bon le mécontentement ? S'il n'y a pas de remède, à quoi bon le mécontentement ? Voilà, ça, c'est une situation qu'on retrouve souvent, voilà, et qui reflète bien aussi la philosophie bouddhiste. Alors, il y en a qui proposent une autre traduction de ça. C'est si le problème a une solution, pourquoi s'en faire ? Si le problème n'a pas de solution, pourquoi s'en faire ? Voilà, il y a un peu des débats sur la traduction, mais on comprend le sens, quoi. S'il y a un remède, à quoi bon le mécontentement ? S'il n'y a pas de remède, à quoi bon le mécontentement ? Ensuite, la première forme de patience, ça va être la patience vis-à-vis de celui qui nous cause du tort, c'est-à-dire de ne pas répondre au mal par le mal, ne pas cultiver de ressentiment, ne pas cultiver de haine, ne pas répondre par la colère à celui qui nous cause du tort. Et puis, le deuxième type de patience, ça va être la patience vis-à-vis des circonstances de la vie, vis-à-vis de l'adversité, vis-à-vis des circonstances pénibles de la vie. Et à ce moment-là, la patience est assimilée à l'endurance, le fait d'être capable d'endurer sereinement les aléas de la vie, les troubles, les difficultés, la souffrance, la douleur, tout en restant imperturbable, se montrer imperturbable vis-à-vis des circonstances. Donc, je trouve que ça pourrait se rapprocher un peu de la vue des stoïques, le stoïcisme. C'est-à-dire, si ça dépend de nous, il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui ne dépend pas de nous. On retrouve un peu cette idée-là dans « si le problème a une solution, pourquoi s'en faire ? Si le problème n'a pas de solution, pourquoi s'en faire ?» Voilà, si ça dépend de nous, on peut faire quelque chose. Donc, il n'y a pas lieu de se lamenter. Et puis, si ça ne dépend pas de nous, il n'y a pas non plus de lieu de se lamenter puisque ça, de toute façon, ça n'est pas de notre ressort. Alors, Shantideva dit, froid, chaud, pluie, vent, fatigue, prison, coup, s'en inquiéter, c'est souffrir davantage. Il en est qui, voyant couler leur sang, redouble de vaillance. Il en est qui défaille à la vue du sang d'un autre. Cela vient de la fermeté ou de la faiblesse de l'esprit. Il suffit d'ignorer la douleur pour lui résister. C'est un texte qui est ancien. Et voilà, il dit « Froid, chaud, pluie, vent, fatigue, prison, coup, s'en inquiéter, c'est souffrir davantage. » Il y a des choses sur lesquelles on peut agir et puis il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Bien que Par exemple, chez les Tibétains, dans l'éducation des enfants, on n'éduque pas les enfants en leur disant tout va bien se passer, tout ira bien. Ce qu'on dit aux enfants, c'est la vie, c'est comme la météo. Parfois, il fait beau, parfois il neige, parfois il pleut. Et donc, tu dois apprendre à à traverser tout ça. Tu dois apprendre à faire face à tout ça et à rester heureux. Je trouve que c'est une façon de voir les choses très, très bouddhiste. Et quand on te... Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas optimiste pour autant. Parce qu'il y a des gens, quand ils entendent parler du dharma, ils trouvent que le dharma, ce n'est pas très optimiste. Quand on dit, bah oui, parfois les choses, ça va, et puis parfois les choses, ça ne va pas, et puis on ne peut rien y faire. De ce point de vue-là, on pourrait dire que non, c'est pas, on ne peut pas dire que le dharma est optimiste dans le sens où on nous invite à ne pas voir que tout ira bien. Que si on pense que tout ira bien, bah finalement, les choses, ça ne marche pas comme ça. Parfois, les choses vont bien, parfois, les choses ne vont pas bien. Mais d'un autre côté, le dharma est optimiste parce que tout l'entraînement que propose le dharma, c'est de nous apprendre à s'accommoder du fait que les choses aillent bien et que les choses vont de travers. D'apprendre à être heureux en toutes circonstances. Et quand on parle de libération, quand on parle de l'éveil, on parle d'une compréhension qui nous permet justement d'être capable de traverser n'importe quelle situation sans être affecté, sans se départir de la paix de l'esprit, sans se départir de la félicité de l'esprit. Donc c'est sûr, c'est exigeant, mais en même temps, c'est très optimiste. Et il s'agit d'un entraînement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il s'agit de s'entraîner. Dans le texte, Shantideva dit « Il n'existe rien d'irréalisable par l'exercice. » Donc, en s'habituant à des souffrances légères, on arrive à en supporter de grandes. Montrer que, bien sûr, la douleur, personne ne souhaite souffrir, personne ne souhaite la douleur, mais il peut y avoir des aspects, on peut en tirer quelque chose de nos expériences douloureuses, on peut en tirer quelque chose de la souffrance. Alors, quand on dit ça, bien sûr, on marche un peu sur des œufs. Qu'est-ce qu'il y a de négatif à souffrir? Eh bien, dans l'exercice de la patience, on apprend à voir que d'une expérience de souffrance, on peut en tirer quelque chose. Ce n'est pas totalement négatif. Il suffit. L'idée de la patience, c'est d'apprendre à en tirer quelque chose, à le voir comme une opportunité. Que la douleur, par exemple, Lama Tsultrim, il utilise souvent cet exemple-là que j'aime bien. Il dit, lorsque un médecin nous propose un traitement qui va être douloureux, qui va être pénible, mais qu'on sait que grâce à ce traitement, on va pouvoir guérir d'un cancer, on va pouvoir vivre quelques années de plus, bah quelque part, on ne se pose pas de questions. On est prêt à endurer ce désagrément temporaire pour quelque chose qui a du sens pour nous. Le fait d'être soigné, le fait d'être en vie, le fait d'être... dès lors qu'on trouve un sens à notre souffrance, et bah du coup, on est plus courageux, on est plus à même de vivre cette souffrance. Si ça implique de ne, par exemple, quand on a affaire à une circonstance qui est pénible ou à quelqu'un qui nous cause du tort, pour pouvoir gérer cette situation avec amour, avec compassion, avec plus de lucidité, et ben quelque part, il va falloir apprendre à endurer le caractère pénible de cette situation, à supporter les désagréments de cette situation au profit d'une vue plus vaste, au profit de plus de compréhension, au profit de plus de clarté, au profit d'une solution à plus long terme plutôt qu'à court terme. Et du coup, ça a du sens. Et si ça a du sens pour nous, on est prêt à supporter les désagréments, la souffrance et la douleur que ça engendre. C'est pas pour rien qu'on traduit Bodhisattva par héros pour l'éveil. Le Bodhisattva qui a fait le souhait de libérer tous les êtres de la souffrance, qui fait le souhait de s'éveiller pour le bonheur de tous les êtres, bah, on ne peut pas prendre cet engagement si on n'est pas prêt à envisager que le chemin ne va pas se faire tout seul, que ça ne va pas être un long fleuve, que ça va être un long fleuve tranquille. Il va y avoir des difficultés, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des défis à relever. Et on doit être prêt à ça. Sinon, on n'ira pas loin. Mais après, c'est comme tout. Hein. Tout nécessite un entraînement. Et puis, ce qu'on appelle souffrance, en fait, ça peut être très différent selon chacun. Dans chaque entraînement, il peut y avoir quelque chose de pénible. Par exemple, quelqu'un qui a pour projet d'escalader le Mont Blanc, ça ne s'improvise pas. Il va falloir s'entraîner dur. Et puis, il y aura des jours où on n'aura pas envie. Il va falloir se mettre en condition. Ça peut être pénible, ça peut être long. Mais pour la personne dont c'est l'objectif, escalader le Mont Blanc, ça vaut le coup. Il y a des gens qui... Il y a des gens qui font des pompes tous les matins. Et pour certains, moi en l'occurrence, on pourrait se dire, mais pourquoi tu fais ça? C'est pas pourquoi tu te fais souffrir comme ça? Mais pour la personne, ça a du sens. Parce que, même il y a des gens qui payent pour aller dans des montagnes russes. D'ailleurs, elles payent pour se faire peur. D'ailleurs, et puis même, on va aller faire la queue pendant des heures, on va payer pour se foutre la trouille. Mais pour eux, pour ces personnes-là, c'est un plaisir. Alors que peut-être pour quelqu'un d'autre, ça peut être complètement absurde ou ça peut être une source de souffrance. Mais voilà, ce qu'on appelle souffrance, en fait, ça dépend beaucoup de chacun et ça dépend du sens qu'on lui met. Et... d'autant plus quand on est dans la perspective de l'éveil, quand on est dans la perspective de déraciner la cause de la souffrance, c'est-à-dire d'aller vraiment à un niveau plus profond. Pas seulement la compassion palliative, c'est-à-dire tu as un bobo, je te mets un pansement ou je te console, mais d'aller plus loin, d'aller voir quelle est la cause de la souffrance. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit... qu'on doit expérimenter quand on a des enfants, c'est-à-dire un enfant qui traverse des émotions difficiles, comme la colère, des crises de colère, etc. J'imagine que, parce que c'est pas mon cas, j'ai pas d'enfant, mais j'imagine que pour un parent, ça doit être un dilemme, c'est-à-dire de savoir quand est-ce qu'il faut consoler l'enfant, c'est-à-dire en lui faisant plaisir, en allant dans son sens, de façon à ce qu'il puisse se débarrasser de cette colère. Et en même temps, il va y avoir des fois où il va falloir lui montrer que la... lui apprendre à faire face à cette émotion, de voir que cette colère, en fait, c'est-à-dire le laisser avec cette colère, de façon à ce qu'il puisse la résoudre par lui-même, qu'il comprenne que on ne peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut, on ne peut pas toujours obtenir tout ce qu'on veut. Bon, là, je m'avance sur un terrain, en fait, je ne me sens pas... je ne vais peut-être pas parler de ça. je suis mal placé pour en parler. Mais je pense que avec nos proches, il y a toujours un moment donné où on se pose là. Et le Bouddha, c'est vraiment son enseignement. C'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux dans l'enseignement du Bouddha. Il y a une compassion qui va être palliative, c'est-à-dire où on va aller dans le sens de la personne, parce qu'il faut prendre en considération le niveau de compréhension de la personne, ses capacités psychologiques, intellectuelles, etc. Et puis des enseignements qui vont aller à un niveau beaucoup plus profond. Et quand on est avec quelqu'un qui nous demande des conseils, qui nous demande de l'aide, bah, savoir qu'est-ce que cette personne est prête à entendre, quand est-ce qu'il faut quelque part, elle a besoin d'un câlin, elle a besoin qu'on la comprenne, qu'on aille dans son sens, et quand est-ce que on peut aller plus loin, c'est-à-dire aller peut-être justement à la racine de son mécontentement, lui renvoyer que peut-être bah, le mécontentement il vient d'elle et pas des circonstances extérieures. Et là, on est déjà à un niveau plus profond. On s'attaque à la racine de la souffrance. Et donc, la compassion à ces deux aspects-là. Alors, il est 11h30. J'ai vraiment... finalement, j'ai abordé la patience. J'aurais voulu prendre du temps pour pour aborder d'autres aspects de la patience, justement c'est ce caractère plus profond où on va s'attaquer à la racine du problème. Mais je pense que comme il est 11h30, ça va peut-être faire un peu long, et ce que je vous propose, c'est que je fasse une autre vidéo pour poursuivre sur cet enseignement. Et puis, bah, du coup,
Peut-être continuer après 11h30.
Bah, ce que je vous propose, c'est de passer à un temps de questions-réponses, éventuellement. Okay. Parce que les gens qui ont des questions à poser.
Moi, je voudrais savoir comment on fait pour... Tu m'entends ?
Oui, je t'entends, ouais.
Comment on fait... je vois... j'ai en tête une personne qui est assez colérique. Et comment on fait pour désamorcer cet enfermement dans lequel cette personne se trouve quand elle est en colère, où elle ne communique plus, où elle est incapable de communiquer et où ça tourne en boucle, quoi, sans possibilité d'entrer dans sa bulle et de désamorcer quoi que ce soit, sans désamorcer non plus cette volonté de vengeance, on peut dire, qu'elle peut avoir à l'intérieur de sa bulle.
Alors, l'enseignement sur la patience, hein, c'est ne nous dit pas forcément ce qu'il faut faire pour la personne, mais plutôt, c'est une invitation à voir que si déjà on arrive à se libérer, nous, de notre propre ressentiment, de notre émotion de colère, bah, du coup, on aura plus de lucidité, d'espace pour répondre à la situation.
Mais comment communiquer ça à cette personne, à cette personne ? C'est ça le truc.
Alors, peut-être que ce n'est pas possible.
Oui.
Peut-être que ce n'est pas possible de communiquer avec cette personne. Et ça, ça fait partie, quelque part, de la passion, dans le sens où reconnaître, avoir la lucidité nécessaire pour reconnaître qu'on est impuissant. Pour reconnaître qu'on peut aujourd'hui, peut-être, avec le contexte, avec les conditions, il n'y a peut-être pas toutes les circonstances qui sont là pour pouvoir se faire entendre, pour pouvoir se faire comprendre. Ça, ça arrive très souvent, se sentir impuissant. Mais se sentir impuissant, du point de vue de l'entraînement bouddhiste, ce n'est pas quelque chose de mauvais, dans le sens où on n'est pas des super-héros. Et on doit respecter le fait que peut-être en face, tout ce qu'on peut dire ou faire, de toute façon, ça ne va pas passer parce que la personne n'est pas à même de l'entendre. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. C'est juste une histoire de patience, là encore. C'est que peut-être il n'y a pas encore toutes les conditions pour agir, être à même de reconnaître ça. Ensuite, il y a dans les textes, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut aussi considérer qu'une personne qui est sous l'emprise de la colère, une personne qui a des propos blessants, alors je ne sais pas du coup si ça répond à si c'est le cas pour ton exemple, mais une personne qui montre à notre rencontre un manque de respect, qui montre qui a des paroles blessantes, qui a des comportements qui sont irrespectueux, voire très préjudiciables, de la considérer comme quelqu'un qui est comme ivre, comme sous l'emprise de l'alcool.
Oui.
C'est quelque chose que je voulais développer, mais je le développerai dans une prochaine vidéo, mais c'est quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que quelqu'un qui est sous l'emprise de la colère, quelqu'un qui réagit comme ça, de voir qu'en fait... À la racine de ça, cette personne, elle n'a pas forcément le choix. Il y a plein de causes et de circonstances qui font que cette personne dit ça ou cette personne fait ça. Et en fait, elle n'a pas tellement de liberté. Nous, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est en colère et donc, du coup, qui est comme ça et qui est... Mais en fait, on nous invite à voir que la personne, elle n'est absolument pas maître d'elle-même. Elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Elle est juste dans un schéma de réactionnel, de cause et de circonstance. On est pétri de conditionnement. Dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, on a tendance à voir, à se voir et à voir les gens comme ayant une personnalité très solide. Il agit comme ça, il fait ceci, il fait cela parce qu'il est comme ça. Mais en fait, quand on y réfléchit, quand on regarde les choses plus profondément, même au regard de la méditation, de voir que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est très intéressant de voir que c'est simplement une suite, un enchaînement de causes et de conditions. Entraînez-vous, si vous le pouvez, à observer ça avec, par exemple, avec vous-même et puis avec des gens que vous connaissez bien, de voir que tout ce qu'on dit, par exemple, quand on discute à table, quand on parle entre nous, de voir que finalement, ce qu'on dit, c'est juste le flot de paroles qu'on peut avoir, c'est juste une succession de causes et de conditions. Nos pensées s'élèvent à partir de causes et de conditions. Nos réactions s'élèvent à partir de causes et de conditions. Et ce qu'on dit, qui est le prolongeant finalement de notre pensée, s'élève à partir de causes et de conditions. Qu'il n'y a rien qui soit totalement prémédité dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Qu'il n'y a pas un responsable, il n'y a pas un auteur unique. Que quand on regarde une personne parler qui parle de ses opinions, sa façon de penser, quand on parle d'une personnalité, on pense à quoi ? On pense bien sûr à. Dans l'idée de personnalité, on a l'idée de l'apparence de la personne, bien sûr. Une personne, c'est une apparence. Mais on ne peut pas dire que la personne est propriétaire de son apparence. L'apparence, ça vient des gènes de la maman, des gènes du papa, de ce qu'on a mangé, de trucs. Et puis en plus, c'est une apparence qui est sans arrêt en mouvement. Donc, ça ne suffit pas à définir une personnalité. Mais voilà. Plus concrètement, quand on parle d'une personnalité, on parle de... quand on dit, par exemple, à l'emporte-pièce, il est comme ça. Quand on dit « il est comme ça », qu'est-ce que ça veut dire « il est comme ça » ? Quand on parle de quelqu'un, en fait, ça veut dire, on parle de ses opinions, on parle de sa manière de parler, on parle de sa façon de ressentir les choses, de sa façon de réagir les choses. Et on dit « il est comme ça », mais quand on y réfléchit, quand on dit « mes opinions, ma façon de penser », finalement, tout dans nos opinions, il y a peu d'opinions qu'on ait qui soient originales, qui viennent profondément d'un être unique qui est moi. Nos opinions, la plupart du temps, c'est les opinions d'un autre. C'est nos conditionnements dus à notre éducation, comment on nous a éduqués, toutes les influences qu'on a reçues de nos proches, de notre expérience, de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vu. Et on dit nos opinions, mais finalement, quand on les formule, non seulement on formule des opinions qui ne sont pas les nôtres, c'est-à-dire ce sont des causes et des circonstances qui font qu'on a cette opinion-là, à ce moment-là, mais en plus, ces opinions, elles changent. Et même parfois, elles changent du jour au lendemain. Il y a des gens qui disent un truc un jour, et puis le lendemain, ils écoutent un autre truc à la radio, et puis ils ont changé d'opinion, et puis ils disent, voilà, et puis pourtant, ils l'affirment dur comme fer, et ça nous fait... Et du coup, on se laisse tromper par ces apparences. On se laisse tromper en réduisant quelqu'un à une personnalité. Mais quand on regarde profondément une personne, ce n'est pas seulement une personnalité, c'est l'héritage de l'univers entier, on pourrait dire. Quand on écoute profondément une personne parler, il y a énormément de causes et de conséquences et de circonstances qui se mettent en place pour que cette personne dise ça à ce moment-là. C'est juste le prolongement de tout un héritage, de tout ce qu'elle a reçu en termes d'expérience, en termes d'éducation. Et quand une personne se met en colère, quand une personne est sous l'emprise de la colère, quand elle est sous l'emprise de ses émotions fortes et qu'elle dit des propos blessants, désagréables, etc., de s'entraîner à voir qu'en fait, ce n'est pas quelqu'un qui est en colère, c'est juste des causes et des circonstances qui se mettent en place et de voir que la personne n'est pas libre de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle fait. Et c'est pour ça qu'on utilise l'image d'une personne ivre, une personne qui est sous l'emprise de l'alcool ou une personne qui est complètement folle. Ben, elle ne sait pas ce qui est dit. Donc, on se dit à quoi bon se mettre en colère. Elle n'est pas maître d'elle-même. Elle est sous l'emprise de l'alcool ou elle est sous l'emprise de quelque chose d'autre. Et on devrait avoir ce même comportement vis-à-vis de quelqu'un qui est en colère. De voir qu'elle est sous l'emprise d'une émotion. Dans la marche vers l'éveil, il y a cet exemple qu'on utilise souvent, qui est très souvent cité, où Shantideva nous dit on ne s'irrite pas contre le bâton qui est l'auteur immédiat des coups, on s'irrite contre celui qui le manie. Voilà, on ne va pas s'irriter contre l'instrument, le bâton, on va s'irriter contre celui qui manie l'instrument. Mais en même temps, l'homme et l'instrument l'instrument de ses émotions. Il est manié par la haine, il est manié par la colère, et c'est pour ça qu'il agit comme ça. Donc, en fait, ce n'est pas l'individu qu'il faut haïr, c'est la haine qu'il faut haïr. C'est la racine du problème. La colère, l'émotion. Il n'est pas maître de lui-même, il est sous l'emprise. Voilà, on verra peut-être ça dans une autre... Parce que là, je repars. Mais on étudierait ça en profondeur dans une autre vidéo parce que c'est un aspect qui est très, très puissant pour comprendre, pour se débarrasser totalement de la colère, de voir qu'en fait, on se met en colère pour de manière inconsidérée.
Et qu'est-ce qu'il en est de la colère ? De la colère contre soi-même. Et de la colère contre soi-même et de la colère, tu as dit que ça pouvait rendre malade. Moi, je viens d'avoir un cancer et je pense que ce cancer, c'est parce que j'étais en colère contre moi-même. Et quand j'étais en chimio, et je fais le parallèle, la comparaison avec le fait de aller en chimio et la pratique. Donc, maintenant, ça m'aide beaucoup pour la pratique et maintenant, j'essaye de comprendre pourquoi j'étais en colère contre moi-même et que voilà. C'est oui. Quand on est on était un peu rongé de l'intérieur et ça a explosé quoi, je pense que, voilà.
Alors Ringo Rinpoche, il parle beaucoup du pardon. Il parle énormément du pardon et je pense que ça s'applique à la fois pour le pardon appliqué aux autres et appliqué à nous-mêmes. Le pardon, pas dans le sens condescendant du terme, c'est-à-dire oui, allez, ok, je te pardonne. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Vous voyez un peu dans ce sens-là, quoi. Le pardon dans le sens, le pardon qui vient de la compassion. Dans compassion, il y a compréhension. Compassion, c'est comprendre. Compassion, c'est comprendre d'où vient la colère, d'où vient la haine. Elle vient de la souffrance. Et ce pardon, donc c'est le même exemple que la personne ivre, ce pardon, il doit aussi s'appliquer pour nous-mêmes. C'est-à-dire, si on s'en veut pour des choses qu'on a dit, pour des choses qu'on a fait, pour des choses que voilà, dont on n'est pas fier ou dont... Peu importe, quoi, si on a un ressentiment vis-à-vis de nous-mêmes, de comprendre que la culpabilité, déjà, ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas nous aider à avancer. Ça, Lama Tsultrim le répète souvent. C'est-à-dire, il dit que dans le bouddhisme, il faut totalement laisser tomber la culpabilité si on veut avancer. Que la culpabilité, c'est quelque chose qui est très courant en Occident, et il explique ça en disant que peut-être ça vient de notre passé judéo-chrétien, de notre culture, mais que chez les Tibétains, c'est considéré comme une forme d'orgueil, la culpabilité. C'est-à-dire, on est en chemin, on cherche à s'éveiller, on cherche à s'améliorer, mais on ne supporte pas l'idée de s'être planté. On ne supporte pas l'idée de se planter en chemin. Si on est en chemin, on va se planter. Mais l'idée, c'est de tirer profit de nos échecs, de nos erreurs, etc. Et donc, du coup, la culpabilité ne va pas nous aider à avancer. Concernant nous-mêmes, par exemple, si on s'en veut, on nous invite à voir que, là encore, si on a accompli des choses qu'on regrette, il y a eu des causes et des circonstances qui sont mises en place. Ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, on n'avait peut-être pas le choix à ce moment-là, on pouvait peut-être pas faire autrement. Et aujourd'hui, on le regrette, mais le regret suffit. C'est-à-dire, quand on parle de la force du regret, on l'envisage en tant que purification. C'est-à-dire, s'il y a des choses qu'on regrette et qu'on ne veut plus réitérer, la purification a lieu. Il n'y a pas lieu d'y passer des plombes. Il n'y a pas lieu d'aller méditer pendant 10 ans dans une grotte, de réciter des millions de mantras pour se purifier. Le regret suffit. Le regret, c'est de se considérer comme une personne nouvelle. C'est-à-dire, voilà, je regrette ça, sous-entendu, je ne suis plus cette personne-là. Je ne veux plus être cette personne-là qui accomplit ça. Donc, je m'estime une personne nouvelle, celle qui n'est qui a pris l'engagement de ne plus se conduire comme ça, de ne plus reproduire ces mêmes erreurs. À partir de ce moment-là, si le regret est sincère, s'il est complet, les compteurs sont remis à zéro. Dans le dharma, on considère ça comme ça. La purification, elle a lieu à ce moment-là. Elle ne dépend pas de quelqu'un d'autre, elle ne dépend pas de la bénédiction de quelqu'un d'autre, de l'extérieur, elle dépend de nous. On s'autorise à remettre les compteurs à zéro. Et il n'y a que nous qui... c'est difficile à faire. Ce n'est pas forcément facile à faire, mais il n'y a que nous qui puissions le faire.
Oui.
Voilà. En prison, par exemple...
D'accord, merci.
C'est, j'avais discuté avec des gens qui accompagnent des prisonniers, des ex-prisonniers plutôt, qui participent à des associations pour ex-prisonniers, parce qu'il y a des gens qui ont fait de la prison. Et quand ils en sortent, c'est-à-dire du point de vue de la société, on pourrait dire qu'ils ont purgé leur peine. Voilà, une fois qu'ils ont purgé leur peine, ce n'est plus des prisonniers. Leur crime est purgé, donc et ils peuvent sortir de prison, ils pourraient s'estimer dédouanés, quoi. Les compteurs sont à zéro, mais comme ils sont, mais eux-mêmes n'arrivent pas à se détacher de leur de l'image qui se renvoie de prisonniers, de criminels. Et ça, effectivement, on peut pas faire ce travail pour l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a des associations justement d'ex-prisonniers où on propose des ateliers pour que la personne arrive à faire ce travail, arrive à se pardonner elle-même. Moi, je trouvais que c'était intéressant de faire ce rapprochement.
Merci. Merci beaucoup. Merci.
Alors, est-ce qu'on s'arrête là pour ce matin ? Alors, je ne peux pas vous donner de date pour l'instant pour une prochaine rencontre. Je vais voir en fonction de ce qu'on fait ici. Mais voilà, si ça vous intéresse, on va programmer ça pour poursuivre l'enseignement sur la patience, sachant que probablement je retournerai pas dans les Chöling en décembre.
D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci. Merci, Jorgane.
Merci.
Et bye. On va faire la dédicace.
Merci. Merci, Jorgane.
Par cette vertu, simplement réaliser le mal gras et sans l'exclusion d'un seul, établir en certains. Merci à tous.
Merci.
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 Merci. Au revoir.
Bon appétit.
Au revoir.
Beaucoup.
Au revoir.
Merci. Merci beaucoup, Jorgane.
Bon appétit, belle journée.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est intéressant comme modèle.
Le micro. Allez, Nadia, je fais un gros bisou.
Allez.
On te fait un gros bisou, Nadia.
Ouais, madame. Moi aussi, je vous fais de gros bisous. Daniel aussi.
Bon, Daniel.
Gros bisous.
J'en ai bien beaucoup. On a beaucoup parlé, là. C'est très bien.
Ouais, je pense. Hein.
Ouais. Ça m'a beaucoup parlé.
C'était bien pour toi.
Parfait.
C'était pour tout le monde et pour toi. Allez, au revoir tout le monde.
Allez,
au revoir.
Gros bisous, à bientôt.
Au revoir.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Allez. Donc, comment je fais pour m'éteindre maintenant, quitter, c'est ça. Hop.
De toute façon, ils vont tous sortir. Hein.